Lavoie. Luc Lavoie, bonjour.
Salut, ça va?
Hey, ça va bien. Je pense que c'est même la dernière de la saison, Luc.
En effet, c'est la dernière de la saison. C'est on va se faire nos vœux de Noël.
C'est peut-être même la dernière à vie, parce que la saison, c'est la dernière. Fait que Luc, je t'ai gardé tes sujets préférés pour cette dernière. Donald Trump!
Donald!
Parce que, bon, la procédure d'impeachment, là, c'est la consécration aujourd'hui parce que la Chambre des représentants vote sur les articles de mise en accusation. Mais on en a parlé vraiment, tu sais, on en a parlé souvent ensemble, Luc. On a comme l'impression que c'est un mauvais téléroman dont on connaît déjà la fin, tu sais.
Ah ben, c'est bien évident et c'est pour ça que ça devient complètement ridicule.
Au moins, ça achève.
Il y a un chroniqueur, entre autres, au Journal de Montréal, Journal de Québec, un professeur qui s'appelle Martin, Pierre Martin. Lui, il est très, très anti-Trump, ce en quoi je le comprends et je me joins à lui. Mais tu lis ses chroniques, c'est comme s'il rêve que peut-être que ça va finir par marcher, parce que l'opinion publique va finir par comprendre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ils vont voter. D'abord, ce matin, il y a des votes préliminaires par des sous-comités. Cet après-midi, ils enclenchent un processus de 6 heures de débat. Alors, tu as des membres de la Chambre des représentants, des républicains puis des démocrates qui vont faire des discours à l'emporte-pièce. En principe, on devrait avoir un vote final sur... Ça va être 2 votes, en fait, sur chacun des articles de destitution, d'accusation. Et ça devrait... Ça pourrait avoir lieu vers 18h, 18h30, mais connaissant le système américain, ça va plutôt être vers 21h, 21h30, et dans l'esprit de la télé-réalité, ils vont être en prime time, tu comprends?
Wow!
Ça, c'est bien important.
Oui.
Et là, ce soir, les manchettes demain matin vont être ça, je veux dire, dans le processus de destitution prévu par la Constitution américaine, c'est comme si le Sénat agit comme cour d'appel, en quelque sorte.
Ouais.
Généralement, on s'entend pour dire les élus du peuple sont les représentants parce que c'est eux qui représentent l'équivalent de nos comtés. Et les sénateurs, ben, ils sont élus, mais ils sont élus pour 6 ans, puis il y en a juste 100. Alors, les sénateurs, eux autres, une fois que le président est destitué, parce que c'est bien ça qui va arriver, la Chambre des représentants va le destituer. Et là, ça enclenche probablement au tout début de janvier, un procès en destitution qui va être présidé dans l'enceinte du Sénat par le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts. Et là, ça va tourner, comme dirait mon ami Drainville, ça va tourner à l'eau de vaisselle, là. Il va rien en avoir. OK? Les républicains sur 100 sièges au Sénat, il y en a 53. Or, il faudrait qu'ils aient 67 votes parce que dans le cas de la Chambre des représentants, un vote à majorité simple est suffisant. Dans le cas du Sénat, qui agit en quelque sorte comme cour d'appel, il doit avoir les 2/3 des votes. Ouais. Donc, ils ont besoin de 67 sénateurs, grosso modo, pour s'assurer qu'ils vont être capables de le destituer. Ils en ont juste 53, et à l'heure actuelle, il y a des indications qu'il y a quelques démocrates qui pourraient voter avec les républicains.
Alors,
ah oui. Et moi, je te dis une chose... Comment ça? Parce que dans leur comté, là où ils ont été élus, Trump est en avance sur tout le monde, et Trump a obtenu le vote populaire en 2016. Alors ils se disent, si je me mets les pieds là, puis avec le sens de la vengeance comme M. Trump, ils vont me faire souffrir pas à peu près. Alors, tu vas avoir un procès en destitution, tu vas avoir un vote négatif, la procédure va prendre fin... Trump va passer à l'histoire comme le 3e président ayant été destitué, mais il n'y en a jamais un qui a été destitué avec le vote du Sénat en plus. Alors, tout ça va faire quoi? Ça va faire que Trump va monter dans les sondages.
C'est déjà commencé?
C'est déjà commencé, mais ça va s'accélérer. Parce que si jusqu'à maintenant, Trump nous donnait l'impression, puis c'était pas seulement l'impression, je pense que c'était la réalité, là, d'improviser, puis tu savais jamais à quoi t'attendre, puis tu savais comment. Cette fois-ci, on sent qu'il y a une stratégie bien arrêtée. Élément numéro 1, signature de l'accord de libre-échange avec le Canada puis le Mexique, dans lequel il peut se vanter, à juste titre, d'avoir fait des gains pour ses électeurs, particulièrement les producteurs laitiers, puis d'autres aussi. Deuxième partie de la stratégie de Trump, un accord commercial avec la Chine, qui pourrait arriver dans 48-72 heures et en sont aux derniers détails. Ça aussi, et là-dessus, je suis obligé de rejoindre les pro-Trump. Ça va être une grande victoire pour les États-Unis parce qu'au moment où Trump a été élu président, s'il y avait un déficit commercial, c'est-à-dire, tu sais c'est quoi un déficit commercial, là? Ça veut dire que j'achète plus à une place que j'y vends, là, de 600 milliards de dollars. Ça pouvait pas tenir. C'est juste qu'il y avait aucun président qui semblait avoir les couilles d'aller les prendre de front. Alors donc, entente commerciale avec la Chine après l'entente de libre-échange avec le Canada puis le Mexique. Ensuite, il va arriver avec... Et là, il y avait une autre partie à sa stratégie qu'on a vue hier. C'est une lettre dévastatrice envoyée à Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, numéro 1 du Parti démocrate à Washington. Une lettre où il dit qu'elle va passer à l'histoire comme la pire des antidémocrates, que son problème, c'est qu'elle n'a jamais voulu accepter le verdict de 2016 et que tout le reste, c'est du blablabla. Il a répété dans sa lettre que sa conversation téléphonique avec le président de l'Ukraine ou le premier ministre d'Ukraine qui a mené à la situation actuelle était une conversation parfaite. Avec Trump, si on fait pas dans la demi-mesure, c'était une conversation parfaite. Ouais. La fois qu'il a dit enquête donc sur Joe Biden puis son fils, voici s'ils sont pas dans le trouble en Ukraine. Alors, Trump va sortir de là, ragaillardi, plus fort que jamais. Les démocrates ont l'air plus piteux que jamais. Il y a aucun des candidats démocrates pour le poste pour l'investiture démocrate, il n'y en a pas à l'heure actuelle qui sortent du lot. Il n'y en a vraiment pas, là. Vraiment pas.
C'est quand même épatant, Luc. Tu sais, tu regardes ça, tu te dis, coudonc, président américain, là, c'est pas n'importe quel titre. Là, il commence à faire de l'ingérence. Il commence à aller parler au président ukrainien. Il dit, enquête donc sur moi. Tu sais, c'est quand même de la magouille. Puis, ultimement, les démocrates sont tellement faibles qu'ils vont ressortir ragaillardis.
Absolument.
C'est épatant quand même.
C'est quand même épatant.
On est dans une période de l'histoire qui est à la fois excitante et déprimante.
C'est tellement déprimant, Paul Raphaël. C'est tellement déprimant. Je veux dire, Trump va en sortir ragaillardi. Les démocrates vont devoir se réinventer. Ils n'ont rien compris de ce que le phénomène Trump a amené. Le phénomène Trump, ça a amené un taux de chômage national à 3,6%. Ça a amené une croissance économique qui a tiré le reste de l'Occident avec lui. Ça a amené un enrichissement collectif clair et net. Ça a amené tout ça parce que, bon, t'enlèves toutes les réglementations environnementales, t'enlèves toutes les interdictions de forer du pétrole puis du gaz dans certaines zones, t'enlèves toutes les protections de ce type-là, tu déréglementes le marché financier. C'est sûr que la business reprend. Je veux dire, si t'es dans la business du pétrole puis du gaz, puis je te dis, regarde, il y en a, là, mais avant, on voulait pas que tu y ailles. Là, vas-y donc. Ça marche! Qu'est-ce que tu veux? Ce que ça va donner comme résultat à long terme, ça va être une catastrophe, là. Éventuellement, ils vont se réveiller dans un cauchemar, puis ils vont dire, mais c'est quoi? J'allais oublier qu'il y a une autre composante à son espèce de stratégie qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et c'est le retrait de l'Afghanistan. Il vient de retirer 4000 troupes, là, comme l'air de rien, là. Ça veut dire qu'il en reste plus à peu près 5-6 000. Puis je pense qu'avec le nouvel an, il va annoncer qu'il retire pour de bon.
OK.
Alors ça, c'est... Et les Américains en ont marre d'une guerre qui dure depuis 18 ans, qui a coûté 2-3 000 milliards de dollars et qui a changé strictement rien. Et qui a valu aux Américains environ 20 000 morts puis une trentaine de milliers de blessés, qui a valu au Canada 153 morts et plus de 1 000 blessés, des gens amputés, parmi d'autres. Alors, il va se retirer de là. Il va avoir son accord avec la Chine, son accord nord-américain.
Puis
les démocrates vont pédaler dans leur chenoute. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête.
Bon, ben Luc, regarde, je vais essayer de te remonter le moral un peu, parce que là, je te sens déprimé. Alors, parlons de la course à la chefferie du Parti conservateur.
C'est du pep, yeah, monsieur.
C'est un téléroman qu'on a envie de suivre.
T'sais. Ah, ça c'est hot. Ça c'est vraiment hot.
C'est qui ton... Tu mets ton vieux 2 sur qui?
Oh, que c'est dur à l'heure actuelle de répondre à cette question-là.
Je sais pas, parce que là, il y a juste des candidats qui ont dit qu'ils iraient pas, en fait.
Ouais, c'est ça, mais... franchement, si j'avais un vieux 2 à l'heure actuelle, je le mettrais sur Peter McKay.
OK.
Le gars de la Nouvelle-Écosse, le fils de Elmer McKay, ouais, qui a été longtemps député, ministre et tout. Un avocat qui a été ministre de plusieurs portefeuilles importants de la défense des affaires étrangères sous Harper. En fait, qui était à l'origine de la des retrouvailles entre les réformistes puis le Parti conservateur et qui a mené à cette fusion. Mais qui est probablement, moi je mettrais un vieux 2 là-dessus. Rona Ambrose, d'après moi, elle n'ira pas.
Ben, elle semblerait, selon ce qu'on entend, qu'effectivement, elle n'ira pas, ça ne l'intéresse pas.
Ben, c'est parce que le secret, dont on peut pas, c'est pas un secret, mais on n'ose pas trop parler de ça, c'est que il y a quelques années, là, quand elle a quitté sa job à la Chambre des communes, qui était d'être le chef intérimaire du parti, et qui a décidé de ne pas se représenter, entre-temps, elle est tombée amoureuse, et c'est réciproque, d'un homme extrêmement fortuné de l'Alberta. Et elle passe bien du temps sur son yacht dans les Caraïbes et puis toute l'affaire. Et l'idée de remettre les pieds à Ottawa dans ça, je pense que c'est comme elle n'a jamais été aussi heureuse qu'elle l'est présentement.
OK, c'est son français. Son français n'est pas top non plus, là.
Vrai.
Ben, celui de Peter McKay non plus, Jonathan.
Effectivement.
Les deux ont un français catastrophique. Après ça, il va falloir qu'il y ait un candidat du Québec. On aurait eu Bernard Laure, que le monde aurait été prêt à dire que c'était un candidat du Québec, mais il a dit non. Mais lui, il choke tout le temps. Là. Ça fait je sais pas combien de fois qu'il y a une rumeur qui part, puis boum, il met fin à ça.
Michael Fortier, crois-tu à ça?
Pas vraiment, non. Je connais très bien Michael. Il a toujours rêvé qu'un jour, il allait être premier ministre du Canada. Mais son passage au Conseil des ministres à Ottawa, alors qu'il n'était que sénateur, lui a valu pas mal de gens qui l'aimaient pas, dans le genre, écoute, il est même pas élu, puis il vient ici avec des portefeuilles seniors, puis ci, puis ça. Je serais pas surpris qu'il y aille, il deviendrait ainsi un candidat du Québec, peut-être.
OK, j'en ai un pour toi.
Ah oui, là.
Vincent Guzzo.
Ah!
Ça, c'est bon. Ça, là, ça serait bon pour le téléphone.
Ça, c'est hot. Ça, c'est vraiment, vraiment hot. Écoute, j'y souhaite bonne chance, c'est tout ce que je peux te dire.
Non, mais ça, c'est quand même étonnant, parce que, tu vois, il y avait le nom, à la dernière course à la chefferie du Parti conservateur, il y avait le nom de Kevin O'Leary aussi, qui était sorti. Puis, c'est quand même impressionnant, ces gens-là qui viennent pas du domaine de la politique, puis j'ai rien à dire, par exemple, sur les compétences, mais qui viennent pas du domaine de la politique, le premier défi qui se lance, c'est... Sais-tu quoi? Je vais être chef du parti, puis je veux devenir premier ministre, tu sais, le plus vite possible. Là.
Ben, c'est Brian Mulroney, ça fait attention. Hein. C'est en plein ça qu'il fait, là.
Non, mais c'est un méchant défi. Non, mais je critique pas ça, mais ça
m'étonne. C'est un méchant défi, puis ça marche presque jamais. Mais c'est un méchant défi. Faut dire que les libéraux avaient été chercher Michael Ignatieff à l'université Harvard. Ça avait fait un pétard mouillé, là, tu sais.
Ben,
ça avait été une catastrophe. Alors, pourquoi je vais pour McKay, c'est ça, c'est que c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a des racines dans le parti, c'est un gars qui va amener plutôt le côté Red Tory, c'est-à-dire le côté progressiste, comme les gens aiment dire. C'est un gars qui embarque pas dans les bébelles de l'avortement, pis ci, pis ça, pis les grands débats moraux menés par la gang de crackpots à Andrew Scheer. Andrew Scheer étant le crackpot en chef. As-tu déjà vu? Écoute, moi, j'ai toujours été frappé. Et c'est une image qui m'avait été communiquée par nul autre qu'un collègue à nous, un certain Éric Duhem. Éric, il connaît beaucoup la politique, puis il connaît beaucoup ce Parti conservateur-là. Mm-hmm. Il m'avait dit, qu'est-ce que t'en penses de Scheer, Éric? Il me dit, il y a de l'air du bonhomme carnaval. Puis regarde-le maintenant, dorénavant, quand tu le vois, là, c'est un gars de 6 pieds 5, hein, c'est un très, très grand gars. Mm-hmm. Puis il y a de l'air, c'est comme tout... Il y a de l'air du bonhomme carnaval.
Ah, moi, ce serait un mix entre le bonhomme carnaval puis Oncle Georges.
Ah! Oncle Georges, c'est pas mal bon aussi. Puis le gars, tu sais, c'est un membre de l'Opus Dei, une des organisations religieuses. C'est une véritable secte, c'est cette affaire. Ça avait pas de bon sens. Alors, mais qu'est son problème, c'est... Et si j'étais lui, c'est ce que je ferais, là. S'il a vraiment envie d'y aller, tu te la fermes pendant un bout, puis pendant ce bout-là, c'est-tu ce que tu fais?
Des cours de français.
Ouais, de l'immersion française, de la vraie immersion, là.
Ouais.
Tu y donnes la claque, là.
Ouais.
Parce que quand tu vas formellement annoncer ton affaire, là, tu vas être capable de parler en français d'une façon compréhensible.
Hey, y a-tu un candidat, tu penses, qui est peut-être, on jase, là, le pire?
Le pire, ben, c'est que si Maxime Bernier était revenu, c'était pas mal le pire. Est-ce qu'on a encore sa toune pour finir l'année? Oui. On a encore le temps. Essaye pas, Jonathan, de me couper. Je veux entendre la toune de Bernier.
On se fait rappeler à l'ordre.
Non!
OK, garde Luc, je fais un compromis avec toi.
Oui.
On laisse faire la toune sur Maxime Bernier, mais on finit cette collaboration heureuse de la voix, Luc Lavoie, La Voix en or, en parlant du troisième lien, tiens.
Non, on me dit qu'on a plus le temps.
Ça, c'est bon, ça, le troisième lien. Jonathan, je veux ton opinion.
On n'a plus le temps. Non,
on a encore le temps. Écoute, Luc, c'est le pont le plus important jamais construit sur la planète. Terme,
je suis journaliste et je ne me mouillerai pas.
Et non seulement je viens de me tromper, c'est pas un pont, c'est un tunnel.
C'est un lien.
Hey, Paul Raphaël, j'ai adoré travailler avec toi.
Pareillement, Luc.
Jonathan, peut-être qu'on va encore travailler ensemble, on le sait pas. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Entre-temps, ce qu'on va faire, c'est Noël arrive, fait qu'on va aller se mettre chaud tranquille dans nos familles. On va se pecter à la face bien comme faut. On va soigner nos maux de tête. Puis après, on va revenir à la radio pour mettre des anges.
Hey, Luc, merci. Ça a été bien, bien fun. J'espère qu'on va se recroiser à un moment donné.
Moi aussi.
Ça a été un plaisir. Luc Lavoie, mesdames et messieurs.
Joyeux Noël, hein?
Hey, à toi
pareillement.
Aussi.